C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Jibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre, qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Jibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les Jibis. Mais quand il y avait trop de Jibis d'un côté, la planète penchait, les Jibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Jibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Mais ces Shadok-là n'avaient aucun sens de leur responsabilité et il arrivait même à certains d'aller se coucher. De sorte que, quand ils étaient sur le dos, leurs pattes ne soutenaient plus rien du tout et la planète aussitôt se déformait. Alors il y avait des Shadok qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadok. Les Shadok et les Jibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Pour les Jibis, c'était facile. Pour aller sur la Terre, ils ont construit une fusée. Elle fonctionne grâce à un combustible super puissant, le Cosmogol 999. Mais quel est ce combustible miracle? D'où les Jibis l'extraient-ils? Comme vous le savez, la planète Jibi est plate. Dès que l'on creuse un trou, on tombe de l'autre côté. Les Jibis ne peuvent donc rien extraire du sous-sol, sans cela leur planète serait une vraie passoire. Les Jibis extraient le Cosmogol 999 de l'atmosphère. Celle-ci est recueillie dans d'énormes entonnoirs à atmosphère, puis pompée dans des pompes à atmosphère. Par un procédé secret, les Jibis en extraient le Cosmogol brut, dit Cosmogol de première pression, qui une fois raffiné, concentré et enrichi, donne le fameux Cosmogol 999 qui propulsera la fusée Jibis. Mais pour les Shadok, c'était autre chose. Leur planète passait son temps à se déformer et ça avait des conséquences assez gênantes. Et quand ils montaient un escalier, ils n'étaient jamais sûrs d'arriver en haut parce que l'escalier tout d'un coup, crac, basculait ou s'affaissait. Ils ne savaient plus quels étaient les escaliers qui montaient et ceux qui descendaient, sauf quand c'était expressément écrit dessus. Alors il arrivait souvent qu'avec un escalier prévu pour la montée, on réussisse à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. Dans ces conditions, la logique Shadok ne reposait pas sur des bases solides, ce qui nuisait considérablement au développement normal de leur intelligence, spécialement en matière de fusées interplanétaires. Sous la direction du professeur Shadoko, les Shadok avaient bien construit un genre de fusée plus ou moins interplanétaire, mais ils n'avaient pas de carburant suffisamment puissant. Pour subtiliser le Cosmogol Jibi, le professeur Shadoko avait mis au point un plan. Nous avons demandé au professeur lui-même de nous dire deux mots de ce plan.
Ok.
C'est très simple. Pour que le cosmogol JB vienne chez nous, il suffit que nous le pompions. Et nous le pompons grâce à cette cosmopompe de mon invention d'une puissance incroyable de 3 millions de Shaddock vapeur. C'est pourquoi toute la population Shaddock pompait. Il pompait dans la joie, il pompait dans l'allégresse, mais pour le moment dans le vide, car le cosmogol apparemment tardait à se manifester. Les malheureux Shaddock s'imaginaient que par la simple force aspirante de leur machine, le cosmogol consentirait à traverser les espaces infinis du cosmos. Mais le cosmogol ne l'entendait tout simplement pas de cette oreille. Les atomes de cosmogol 999 étaient des atomes très lourds et très sérieux qui ne changeaient pas de planète comme ça pour un oui, pour un non. Et les dérisoires efforts de ces pitoyables bêtes n'avaient pratiquement aucun effet. Certes, les gibis s'inquiétaient au début de voir leur atmosphère aller et venir comme ça, sans rime ni raison. Alors, ils braquèrent leurs antennes de télévision pour voir de quoi il était question. Et quand ils virent les Shaddock sur leur télévision, alors ils ne furent plus inquiets du tout. Ils disaient... Laissons faire les choses, de toute façon, les Shaddock sont idiots, leur plan ratera, etc., etc. Et les gibis décidèrent d'aller en vacances à la campagne en attendant que le plan Shaddock rate. En attendant que le plan Shaddock rate. Ils en profitent pour se faire de nouveaux costumes. Il faut dire qu'en ce temps-là, quand ils voulaient changer de costume, les gibis mangeaient. Si un gibier mangeait des fleurs, ça lui faisait un costume à fleurs. Si un autre gibier préférait les petits pois, le lendemain, hop, il avait un petit ensemble à pois. Quand un gibier mangeait un jour, par exemple, des carottes, le lendemain, par exemple, rien du tout, un jour des carottes, un jour rien du tout, ça lui faisait un très joli costume rayé. Et les gibiers s'amusaient. Pendant tout ce temps-là, les Shaddock, eux, pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir. Et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ce qui revenait exactement au même, car la cosmopompe avait été spécialement étudiée. Mais plus ils pompaient, plus il n'y avait rien qui sortait. Alors, le chef Shaddock, sur les conseils de son fidèle sorcier, fit venir Shaddocko et lui parla en ces termes. Et il le fit mettre au goulp. Il faut dire que le goulp était une sorte de trou dans lequel on entassait les Shaddock qui n'avaient pas donné entière satisfaction. On l'appelait aussi quelquefois enfer, à cause que ceux qui étaient dedans y étaient enfermés. Tout était-il perdu pour les Shaddock? Peut-être pas, car il restait le sorcier. En ce temps-là, en effet, sur la planète Shaddock, il y avait un sorcier. Il s'occupait plus spécialement d'astrologie et c'était lui qui, par exemple, était chargé tous les matins de faire le soleil se lever. Comme tout ça lui laissait quand même pas mal de temps libre, entre deux, il était plombier. Et le chef Shadok lui-même venait le consulter souvent sur des problèmes de gouvernement ou des problèmes de Robid. C'est ainsi que, prenant la direction des opérations, le sorcier installe son robinet sur la pompe à Cosmogol, ordonne que les Shadok, dans un suprême effort, se remettent à pomper et dit que, foi de sorcier, on verrait ce qu'on verrait et que le Cosmogol sortirait de son robinet. Et les Shadok, encore une fois, se remirent à pomper. Mais du Cosmogol, il y a longtemps qu'il n'y en avait plus, pour la bonne raison que les gibis avaient tout extrait et avaient fait leur plein de leur fusée. Mais avant de partir et en guise d'adieu à leur vieille planète plate, ils avaient organisé une grande fête. Ils s'amusaient comme des fous pendant tout le jour et le soir, ils regardaient les Shadok à la télévision, faisaient des feux d'artifice et lançaient des confettis. Mais les confettis, qui, comme chacun sait, ont des atomes beaucoup plus légers que les atomes de Cosmogol, étaient aussitôt aspirés par la pompe Shadok. Les gibis trouvaient ça amusant, et ils en relançaient, et plus les gibis s'amusaient, plus les Shadok pompaient, et plus les confettis n'arrêtaient pas d'arriver. Le devin plombier, qui prenait ça pour du Cosmogol, criait « Victoire, victoire, le Cosmogol est arrivé, le Cosmogol est arrivé !» Et les Shadok en entassaient le plus possible dans leur fusée. Les gibis en profitèrent pour faire un grand nettoyage de leur planète et se débarrasser de toutes sortes d'ordures gênantes telles que papier gras, peau de yaourt, peau de banane et quantité d'autres détritus. Les Shadok prenaient tout ça pour un précieux combustible atomique et en entassaient le plus possible dans leur fusée. Restait à savoir s'ils arriveraient sur la Terre avec une fusée comme ça, bourré de confettis, de détritus et de papier gras. Hein? La fusée Jibi comportait pas mal d'étages. D'abord un premier étage propulseur contenant le combustible Jibi d'une puissance infinie, le Cosmogol 999. Aux étages supérieurs, on trouvait une piscine chauffée, entièrement aménagée, une salle de jeu avec balançoire, patins à roulettes, jeux de domino et autres appareillages hautement perfectionnés indispensables pour survivre sur l'écorce terrestre. Un étage carnaval avec manège, montagne russe et autres instruments de navigation indispensables pour la même raison. Un étage campagne avec des fleurs, des arbres, des petits ruisseaux et des jardins potagers où les gibis cultivaient des légumes nécessaires pour subvenir à leurs besoins techniques, moteurs électriques et ioniques, microphones en grappe, gyroscopes ou tubes de télévision. Et dans les vergers, ils poussaient des antennes radar, des goniomètres ou des radiotélescopes. La fusée Shadok, elle, ne marchait que dans un sens, de haut en bas uniquement, et à chaque essai, elle retombait et se cassait. Mais les Shadok n'étaient pas inquiets, ils continuaient. car c'était un des principes de base de la logique Shaddock, ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Les mathématiciens Shaddock avaient calculé, en effet, grâce à leurs ordinateurs à pédales, que la fusée avait une chance sur 1 million de partir et qu'il suffisait de très bien rater les 999 999 premiers essais pour être sûr que le millionième marche. Et les Shaddock se dépêchaient de rater le plus possible d'essais. Ils commençaient donc à essayer très tôt le matin. Les essais ratés d'abord pendant toute la matinée. Quand tout allait bien, on arrivait à en rater 6, quelquefois 7, mais c'était rare. Vers midi, ils prenaient un repas léger. Ça continuait ensuite jusqu'à la nuit. Et le lendemain, de très bonne heure toujours, ils recommençaient. Mais le marin Shaddock qui regardait ça disait que la fusée ne partirait jamais. C'était un ancien quartier-maître pirate qui avait mal tourné. Et contrairement aux gens de son espèce qui passent généralement leur temps à introduire des petits bateaux dans une bouteille, lui, il introduisait des bouteilles dans son petit bateau. Il partait des potrominets, soi-disant, pour aller voir où était le vent. Mais le soir, quand il revenait, il avait complètement oublié et il disait qu'il était sous l'influence. En réalité, il était tout simplement pris de boisson. Pour la fusée, il disait que le plus simple était encore d'aller subtiliser la fusée Jibi, que lui connaissait le chemin et que lui, il irait la subtiliser, lui, en bateau. Il avait trouvé une Shaddock Caravelle de récupération et avait repeint tout ce qui lui tombait sous la main. Car, disait-il, dans la marine, c'est un principe, il faut saluer tout ce qui bouge et peindre le reste. Et quand la Shaddock Caravelle fut inaugurée, on fit sortir du goulp quelques intrépides Shaddock qui furent invités à ramer. Et ils partirent. Puis, aussitôt après, et sans perte de temps inutile, on procéda à une autre inauguration, celle d'une magnifique statue où l'on pouvait lire « À nos hardis marins perdus dans le cosmos ». Parce qu'on savait déjà qu'il ne reviendrait pas. Car de l'eau dans le cosmos, il n'y en avait pas tellement. Et au bout d'un certain moment, elle s'arrêtait. Après quoi, il n'y avait plus rien, sauf évidemment le néant. Mais les vaillants marins ramaient quand même, sous le commandement de principe du quartier-maître pirate, qui, comme à l'ordinaire, était assez joliment pris de boisson. Si bien que personne, en fait, ne regardait où l'on allait. Mais il disait que dans la marine, c'était l'usage, car il est beaucoup plus intéressant, ajoutait-il, de regarder où l'on ne va pas que de regarder où l'on va. Pour la bonne raison, continuait-il, que là où l'on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera, et que de toute façon, ça ne sera jamais, en fin de compte, que de l'eau. Sauf, naturellement, imprévu. Or, un jour, justement, un hardi marin s'écria « Chef, il n'y a plus d'eau !» C'était vrai. Et il ne pouvait plus avancer. Certes, le marin Shaddock avait déjà observé dans ses voyages que l'eau à l'avant des bateaux avait souvent tendance, dans certaines conditions de température et de pression, à se transformer subitement en iceberg, en caillou, en baleine, ou même en rien du tout. Mais il avait remarqué aussi qu'à l'arrière des bateaux, il y avait toujours de l'eau qui ne servait à rien. Et pour continuer d'avancer, il ordonna que l'on récupère cette eau-là pour la mettre à l'avant. De sorte que pendant que les Shaddock d'en haut ramaient l'eau, ceux d'en bas la récupéraient pour que ceux d'en haut la reramment. En ce temps-là, donc, Comme vous le voyez, on pouvait très bien naviguer en bateau dans le cosmos, à condition bien entendu d'emporter son eau. Mais par endroits, malheureusement, le cosmos était percé. De l'eau, fatalement, on en perdait. Et quand il n'y avait plus d'eau sous le bateau, eh bien évidemment, on sombrait. Pour la remplacer, il fallait emporter d'énormes provisions d'eau et souvent, il y avait plus d'eau dans le bateau que sous le bateau. Si bien qu'il y avait des Shaddocks qui périssaient noyés sans même que le bateau coule. Mais vous direz-vous, si les Shaddocks pouvaient aller en bateau de la planète Shaddock à la planète Jibi, pourquoi n'allaient-ils pas directement et par le même moyen sur la Terre ? À cela, il y avait deux raisons. La première relevait du second principe fondamental de la logique Shaddock qui disait « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» La seconde raison relevait de lois cosmiques beaucoup plus sérieuses. C'est que, pour aller sur la Terre, il aurait fallu monter. Et que si on avait monté, l'eau aurait coulé. Et très rapidement, il n'y en aurait plus eu. Il y avait longtemps, évidemment, que les gibis les voyaient venir sur leur télévision. Mais ils avaient décidé de les laisser faire, car comme ça, ils avaient deux programmes. Et quand ils en avaient assez de voir les Shaddocks rater leurs essais, ils regardaient les marins ramer. Et puis ils s'étaient dit, jouons-leur un tour, camouflons notre planète, tirons des feux d'artifice. Il faut dire que les gibis avaient des feux d'artifice spéciaux qui faisaient de l'obscurité. Et quand on les tirait de jour, on n'y voyait plus rien. Et de nuit, il faisait encore plus nuit. Et les marins Shaddock, ne voyant que de l'obscurité, manquèrent la planète Jibi et continuèrent à ramer vers les espaces extérieurs et apparemment infinis du cosmos. Un beau jour, les gibis partaient. Ça s'était passé un matin sans difficulté. Et les gibis découvrirent l'espace avec ses planètes et ses paysages. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le cosmos était un peu comme une campagne ordinaire, sauf que naturellement, tout était cosmique. Il y avait des arbres cosmiques, des petits pois cosmiques, des cascades cosmiques et des quantités de choses cosmiques comme ça. Quand les gibis trouvaient un endroit qui leur plaisait, ils s'arrêtaient pour pique-niquer ou bien ils ouvraient leur fusée et donnaient des représentations. Ils faisaient ça uniquement pour s'amuser car le plus souvent, il n'y avait personne pour les regarder. Thank you. avait les poissons de la planète à poissons, par exemple, qui grimpaient dans leurs arbres pour les regarder. Car il faut savoir qu'en ce temps-là, les poissons avaient des petites pattes et se promenaient dans les arbres aussi facilement que vous et moi. Les gibiers les avaient fait tellement rire qu'ils en avaient versé des torrents de larmes. Et quand les gibiers avaient dû partir, ils en avaient versé d'autres encore, si bien que les arbres avaient été obligés de nager. Et c'est depuis ce temps-là que les arbres nagent, et les poissons aussi d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, chez les Shadoks, les essais de fusée continuaient. D'abord, les techniciens Shadoks entonnaient le compte à rebours sur un vieil air d'accordéon. Et puis, les Shadoks les plus doués pour les mathématiques enfourchaient leur ordinateur à pédales pour calculer la trajectoire. C'était eux qui avaient le plus de mal, car les Shadoks avaient entendu dire que plus un ordinateur va vite, plus il donne de bons résultats. Alors, ils faisaient la course, et c'est le mathématicien qui arrivait le premier qui avait trouvé la bonne trajectoire. On procédait alors à la mise à feu, comme prévu, ça ratait, et aussitôt après, on recommençait. Tout cela, évidemment, faisait pas mal de bruit et les Shadoks d'en bas, qui, comme vous le savez, servaient à soutenir la planète par en dessous, s'en plaignaient. Ils disaient que ça les empêchait de réfléchir, qu'ils en avaient assez et que si tout ce bruit ne cessait pas, ils partiraient tout seuls de leur côté. Jusqu'ici, vous direz-vous, nous avons laissé ces Shadoks-là faire un peu ce qu'ils voulaient sans trop nous en occuper et nous vous prions de nous en excuser. Pour vous expliquer simplement les choses, disons que, d'une part, le haut de ces Shadoks-là était plus bas que le bas de ceux d'en haut, et que, d'autre part, leur bas était excessivement au-dessus de leur haut. De sorte que, quand un Shadok d'en bas voulait tomber d'assez haut, par exemple, il fallait qu'il saute de bien plus bas que si son haut avait été nettement au-dessous, c'est-à-dire en réalité au-dessus du bas, ou quelque chose comme ça. Pour le reste, c'était pareil. Et pour partir, ils avaient construit, devinez quoi ? Une fusée, tout simplement. Mais ils avaient exactement les mêmes problèmes que ceux d'en haut, et à l'envers, évidemment. Et si la fusée d'en haut refusait de monter, celle d'en bas, elle refusait de descendre. Et à chaque essai, elle remontait et se cassait. Ils avaient fait appel pour la fabriquer un spécialiste, justement, des fusées cassantes. Le professeur Shadoko lui-même, que vous connaissez bien. Et la fusée d'en bas lui avait donné une idée plus connue aujourd'hui sous le nom de première loi de la Shadok dynamique et encore couramment utilisée de nos jours en astronautique. Il disait que puisque la fusée d'en haut refusait de monter, et c'est donc qu'il suffisait tout simplement de la laisser tomber. C'était simple, mais il fallait y penser. Certes, ajoutait-il, on risquait de ne pas aller exactement là où l'on voulait, et même réciproquement d'aller exactement là où l'on ne voulait pas, mais on était sûr au moins de ne pas retomber là où l'on était. Le plan Shadoko est adopté à l'unanimité, alors les Shadoks partent, c'est décidé. Heureusement qu'ils partent d'ailleurs, car depuis le temps qu'on en parlait, vous commencez sans doute à vous impatienter. Eh bien non, ils ne partirent pas encore cette fois-là. Figurez-vous que tout à coup, les Shadoknautes furent pris d'étranges convulsions. Ils avaient attrapé la maladie. La maladie qui fait rétrécir. En ce temps-là, c'était facile, il n'y avait pas 36 maladies. Il y avait la maladie qui servait pour tout, pour les pieds, pour les dents, pour la tête et même pour l'intérieur. Quand un Shadok marchait dans la maladie avec ses pieds, tout d'un coup, top, il se rétrécissait. Et quand il marchait du côté où il en avait moins, il se rétrécissait moins, de sorte qu'il ne se rétrécissait pas partout de la même façon. C'était amusant. Alors, la pauvre bête se traînait lamentablement comme ça, et puis, au bout d'un certain temps, les intérieurs étaient attaqués. Le Shadow, tout entier, se gâtait, maigrissait, et à la fin, disparaissait. Le professeur Shadoko avait bien, soi-disant, mis au point un vaccin anti-maladie. Les Shadows inoculés, certes, ne rétrécissaient pas, mais ils se gonflaient, et à la fin, éclataient. C'était encore plus amusant, mais cela revenait évidemment au même du point de vue de la santé. Les pauvres bêtes se camouflaient en n'importe quoi, en passoire, en ressort de lit, en tuyau de poêle ou en arrosoir pour échapper au terrible fléau ou au vaccin du professeur Shadoko. Mais la maladie venait à bout des ressorts, s'infiltrait dans les passoires les plus étanches. Beaucoup périrent, et nourris de Shadok, la maladie redoublait de vigueur et de méchanceté, si bien qu'à la fin, la planète elle-même se mit à rétrécir. D'autres Shadok périrent. Les pauvres bêtes, paniqués, sautaient dans la fusée sans même prendre le temps de se changer. Les Shadoks d'en bas sautaient dans la leur. Or, la fusée d'en haut qui était à l'endroit marchait à l'envers, tandis que la fusée d'en bas qui était à l'envers ne marchait pas à l'envers. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, elle marchait à l'endroit et ce qui devait arriver arriva. L'une montant, l'autre descendant, les fusées bourrées de Shadoks, de détritus et d'ustensiles, de casseroles, tringles à rideaux, râpes à fromage, ressorts de lit et autres batteries de cuisine de la même farine se tamponnèrent et éclatèrent. D'autres Shadoks, évidemment, en profitèrent pour périr. Entre-temps, à force de manger trop de Shadoks, la maladie était tombée malade et laissa partir les rescapés. Et les uns entassés dans des tiroirs, les autres dans des casseroles ou des passoires, c'est ainsi que commença pour eux le long et pénible voyage qui devait, en principe, les amener sur la Terre. Venait d'abord le chef Shadok dans sa casserole personnelle, le devin plombier dans son lavabo et le professeur Shadoko. Le reste de la population suivait comme elle pouvait. Il y avait des Shadoks en boîte, des Shadoks en casserole ou à la poêle et même des Shadoks en tube. Tout était plein de Shadoks. Et pour la cuisine, c'était pas pratique. Quand on voulait faire cuire des nouilles, par exemple, il fallait déménager les Shadoks qui étaient dans le fourneau. En attendant, on les installait dans l'eau des nouilles. Et quand c'était cuit, on déménageait les Shadoks qui habitaient dans la passoire et on les mettait dans le fourneau. On passait une première fois pour récupérer l'eau que l'on mettait aussi dans le fourneau. On passait une deuxième fois pour récupérer les nouilles à part. Enfin, on passait le fourneau pour récupérer l'eau. À ce moment-là, les nouilles tombaient et on pouvait recommencer. Et puis un jour, un pauvre Shadok se mit à crier « Terre ! Terre ! » Et en effet, il y avait quelque chose de rond à l'avant. Ils étaient sauvés. Ils l'avaient là, enfin, devant eux, cette terre qu'ils avaient tant espérée. Et, dans la solennité de l'heure, ils oubliaient les peines endurées et en profitaient pour se pardonner les uns les autres leurs péchés. Et la terre, grandiose et sereine, émergeait peu à peu de l'infini, comme si elle naissait pour eux seuls, rançon de toute leur peine. Et un beau matin, ils atterrirent Puis ils ressortirent de l'autre côté, mais plus mouillés. Ce n'était pas la Terre qu'ils avaient là, mais ce qu'on appelait autrefois la planète à eau. La planète à eau était une planète ronde et normale, sauf qu'elle était faite exclusivement d'eau. Il y avait de l'eau en bas, de l'eau en haut et même de l'eau au milieu. Mais les Shaddock, eux, étaient persuadés qu'ils étaient sur la Terre et qu'il suffisait tout simplement de pomper l'eau et de la mettre à côté. Ils pompèrent comme ça pendant assez longtemps, mais pas le plus petit bout de terre n'apparaissait. Ils s'aperçurent à la fin qu'ils s'étaient trompés et qu'il n'y avait pas de terre du tout. Il ne restait que les poissons volants qui étaient pour ainsi dire obligés de nager à pied sec et qui n'étaient pas contents du tout. Ils allèrent voir les Shaddock et en mangèrent un certain nombre. Puis ils exigèrent qu'ils remettent leur planète là où ils l'avaient prise et plus vite que ça. Et les Shaddock, encore une fois, se remirent à pomper. Pomper pour les Shaddock, à la longue, c'était devenu une habitude. Quand les Shaddock se trouvaient devant un grave problème et qu'ils voyaient pas très bien comment faire, eh bien, ils pompaient. De toute façon, ils disaient, ça pouvait pas nuire. Ils avaient de grosses pompes pour les gros problèmes et de petites pompes pour les petits problèmes. Ils avaient mis au point aussi des pompes spéciales pour les cas où il n'y avait pas de problème du tout. Pour ceux que la technique intéresse, disons que quand on pompait avec ça, non seulement il ne se passait rien, comme avec une pompe Shaddock ordinaire, mais plus on pompait, plus il n'y avait rien qui se passait. C'était quand même une sécurité. Pendant que les Shaddock perdaient leur temps à pomper n'importe quoi dans l'espace, les Jibi allaient s'installer tranquillement sur la Terre. Mais vu de loin, la Terre n'avait pas l'air tellement bien. Du point de vue des fêtes en particulier, c'était pas du tout organisé. Alors les Jibi décidèrent de remettre un peu d'ordre dans tout ça et passèrent un premier coup de peinture pour que ça fasse plus gai. Et la grande inauguration pouvait commencer. Les Jibi inaugurèrent la Terre pendant des années et des années. C'était facile, parce que quand ils avaient fini d'inaugurer, eh bien, ils repeignaient tout d'une autre couleur et ils recommençaient. Les Shaddock, à force d'errer lamentablement de fausse terre en fausse terre, finirent un jour quand même par tomber sur la vraie. La plupart, en tombant, heureusement se cassaient et il n'en restait plus du tout assez pour conquérir la terre. Alors les Shaddock décidèrent de pondre des œufs de façon intensive et que tout le monde d'ailleurs s'y mettrait. Car chez les Shaddock, en ce temps-là, pour tout vous avouer, il n'y avait pas de Shaddock madame et de Shaddock messieurs. Tout le monde avait le droit de pondre un œuf. Il suffisait simplement de compter jusqu'à 4. C'est dire que c'était uniquement une question d'éducation. Ça avait quand même des inconvénients. Quand les mathématiciens Shaddock faisaient des calculs, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans qu'ils s'en rendent compte, toc, il leur arrivait un œuf. Et puis quand on voulait compter les œufs, eh bien on ne pouvait pas savoir parce que celui qui les comptait obligatoirement en répondait. Il fallait qu'il y en ait un autre qui passe derrière pour recompter, lequel à son tour, etc., etc., etc. Mais ça n'était qu'un inconvénient. Il y en avait un autre qui était, si j'ose dire, beaucoup plus inconvénientiel. C'est que les Shaddock pondaient des œufs en fer. Ils avaient trouvé ça astucieux étant donné que, comme ils avaient de trop longues pattes, les œufs ordinaires, en tombant, se cassaient. D'un côté, les œufs en fer, évidemment, c'était pratique, mais d'un autre côté, pas tellement, car non seulement ils ne se cassaient pas, mais ils ne se cassaient pas du tout. Si bien que quand l'œuf était mûr, en quelque sorte, eh bien, le Shaddock qui était dedans ne pouvait pas sortir. Alors, au lieu de couver leurs œufs normalement, comme vous l'auriez fait, vous et moi, les Shaddock les mettaient à rouiller. Mais ça prenait pas mal de temps. Et souvent, le Shadok était déjà très vieux quand il sortait, et ça valait vraiment plus la peine. Et c'est comme ça qu'ils partirent à la conquête de la Terre. Ils n'avaient pas peur, mais ils étaient prudents, parce que l'ennemi, évidemment, il ne savait pas du tout quelle tête il avait. Et puis un jour, ils virent l'ennemi. C'était des arbres, tout simplement, ou des bouts de cailloux qui dépassaient. Et les châteaux qui n'étaient pas habitués, et ils sautaient sur les arbres et les petits cailloux, et les faisaient prisonniers. Alors les gibis virent qu'il y avait encore de beaux jours à passer sur la terre tant qu'il y aurait des arbres et des petits cailloux pour tenir les Shadoks occupés. Alors, notre histoire pourrait s'arrêter là. Au début, nous vous l'avions promis, les Shadoks et les gibis devaient arriver sur la terre, eh bien, les y voilà. Comme dans les belles histoires, on finirait en disant qu'ils furent heureux et qu'ils vécurent longtemps. Ça serait vraiment trop abusé de votre crédulité. Car pour ne rien vous cacher, c'est juste au moment où notre histoire allait s'arrêter que les vrais embêtements pour les uns comme pour les autres allaient commencer. Figurez-vous qu'un jour, les vaillants Shadoks s'apprêtaient à livrer bataille à un ennemi très supérieur en nombre et ils sonnaient du cor pour l'effrayer. Et puis, tout à coup... C'était la bête, la terrible bête qui en ce temps-là régnait sur la terre. Et les Shadoks, ces imbéciles-là, l'avaient réveillée. Elle répondait, la bête, au joli nom de Gégène, ou à n'importe quel nom d'ailleurs, mais en général, il valait mieux pas l'appeler. Alors, notre histoire finira plutôt comme ceci. C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait la Terre. D'un côté de la Terre, il y avait les gibis. De l'autre côté de la Terre, il y avait les Shadoks. Entre les deux, il y avait Gégène, la bête qui les embêtait. Les Shadoks et les gibis virent bien au bout d'un certain temps qu'ils ne pourraient pas vivre longtemps sur une terre avec un Gégène comme ça. Alors, ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Lune, qui n'avait pas de Gégène.